Driving plays a big part in driving the local economy. It helps us all get where we're going and creates good jobs close to home. At Cenovus Energy, our refineries in Toledo and Lima are a reliable domestic source of gasoline, diesel, and jet fuel. Plus, more than 2,300 employees and contractors work for us here in Ohio. See how we're helping local communities move forward at cenovus.com.
Section 11, chapitre 11 de la première partie de Kéraban le Têtu. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Kéraban le Têtu, par Jules Verne. Première partie, chapitre 11. Dans lequel il se mêle un peu de drame à cette fantaisiste histoire de voyage. Ils étaient tous partis. Ils avaient quitté la villa. Le seigneur Kéraban pour accomplir ce voyage, Van Mitten pour accompagner son ami, Ahmet pour suivre son oncle, Nizib et Bruno, parce qu'ils ne pouvaient faire autrement. L'habitation était maintenant déserte, à ne point compter 5 ou 6 serviteurs qui s'occupaient de leur besogne dans les communs. Le banquier Selim lui-même venait de se rendre à Odessa afin de remettre aux voyageurs les roubles échangés contre leurs piastres ottomanes. La villa ne comptait plus parmi ses hôtes que les 2 jeunes filles, Amasia et Necep. Le capitaine Maltais le savait bien. Toutes les péripéties de cette scène d'adieu, il les avait suivies avec un intérêt facile à comprendre. Le seigneur Kéraban remettrait-il à son retour le mariage d'Amasia et d'Ahmet? Il l'avait remis, première bonne carte dans son jeu. Ahmet consentirait-il à accompagner son oncle? Il y avait consenti, seconde bonne carte dans le jeu d'Yaroud. Eh bien, le Maltais en avait une troisième. Amasia et Nejeb étaient maintenant seuls dans la villa ou, tout au moins, dans la galerie qui s'ouvrait sur la mer. Sa tartane se trouvait là, à une demi-encablure. Son canot l'attendait au bas des degrés. Ses matelots étaient gens à lui obéir sur un signe. Il n'avait qu'à vouloir. Le capitaine fut vivement tenté d'employer la force pour s'emparer d'Amasia. Mais, au fond, comme c'était un homme prudent, ne voulant rien donner au hasard, décidé à ne laisser aucune trace de l'enlèvement, il se mit à réfléchir. Or, il faisait grand jour alors. S'il tentait d'agir par force, Amasia appellerait à son aide. Nejeb joindrait ses cris aux siens. Peut-être seraient-elles entendues de quelques serviteurs. Peut-être verrait-on la guidare appareillant en toute hâte pour sortir de la baie d'Odessa. Ce serait là un indice, un commencement de preuve. Non, mieux valait opérer avec plus de circonspection et attendre la nuit pour agir. L'important était qu'Ahmet ne fût plus là, et il n'y était plus. Le Maltais resta donc à l'écart, assis à l'arrière de son canot que dissimulait en partie la balustrade, et il observait les 2 jeunes filles. Elles ne songeaient guère à la présence de ce dangereux personnage. Toutefois, si, par suite de la visite convenue, Amasia et Nejeb consentaient à venir à bord de la tartane, soit pour examiner les articles dont elle devait faire emplette, soit pour tout autre motif, et Yaroud avait une idée à cet égard, il verrait s'il serait opportun de se décider sans attendre la nuit. Après le départ d'Ahmet, Amasia, frappée de ce coup subit, était restée silencieuse, pensive, regardant le lointain horizon qui se déroulait vers le nord. Là se dessinait ce littoral dont les voyageurs allaient obstinément suivre le contour. Là, cette route où les retards, les dangers peut-être, mettraient à l'épreuve le seigneur Kéraban et tous ceux qui l'entraînaient malgré eux. Si son mariage eût été fait, elle n'aurait pas hésité à accompagner Ahmet. Comment l'oncle s'y serait-il opposé? Il ne l'eût pas voulu. Non. Devenue sa nièce, il lui semblait qu'elle aurait eu quelque influence sur lui, qu'elle l'aurait arrêté sur cette pente dangereuse où son obstination pouvait le pousser encore. Et maintenant, elle était seule, et il lui fallait attendre bien des semaines avant de se retrouver avec Ahmet dans cette villa de Scutari où leur union devait s'accomplir. Mais si Amasia était triste, Nejeb était furieuse, elle, furieuse contre l'entêté, cause de toutes ses déceptions. Ah, s'il se fût agi de son propre mariage, la jeune zingare ne se fût point laissé enlever ainsi son fiancé. elle aurait tenu tête au têtu. Non, cela ne se serait pas passé de la sorte. » Nedjeb s'approcha de la jeune fille. Elle la prit par la main. Elle la ramena vers le divan. Elle la força de s'y reposer et, prenant un coussin, s'assit à ses pieds. « Chère maîtresse, dit-elle, à votre place, au lieu de penser au seigneur Ahmet pour le plaindre, je penserais au seigneur Kéraban pour le maudire à mon aise. » « À quoi bon ? » répondit Amasia. « Il me semble que ce serait moins triste, » reprit Nedjeb. « Si vous le voulez, nous allons accabler cet oncle de toutes nos malédictions. Il les mérite, et je vous assure que je lui ferai bonne mesure. » « Non, Nedjeb, » répondit Amasia. « Parlons plutôt d'Ahmet. C'est à lui seul que je dois penser. C'est à lui seul que je pense. »« Parlons-en donc, chère maîtresse, » dit Nedjeb. En vérité, c'est bien le plus charmant fiancé que puisse rêver une jeune fille. Mais quel oncle il a ! Ce despote, cet égoïste, ce vilain homme, qui n'avait qu'un mot à dire et qui ne l'a pas dit, qui n'avait qu'à nous donner quelques jours et qui les a refusés. Vraiment, il mériterait... Parlons d'Ahmet, reprit Amasia. Oui, chère maîtresse, comme il vous aime, combien vous serez heureuse avec lui. Ah, il serait parfait s'il n'avait pas un pareil oncle. Mais en quoi est-il bâti, cet homme-là ? « Savez-vous qu'il a bien fait de ne point prendre de femme, ni une ni plusieurs ? Avec ses entêtements, il aurait fait révolter jusqu'aux esclaves de son harem. »« Voilà que tu parles encore de lui, Nedjeb, » dit Amasia, dont les pensées suivaient un tout autre cours. « Non, non, je parle du seigneur Ahmet. Comme vous, je ne songe qu'au seigneur Ahmet. » »« Et tenez, à sa place, je ne me serais pas rendue. J'aurais insisté. Je lui croyais plus d'énergie. » « Qui te dit, Nedjeb, qu'il n'a pas montré plus d'énergie à céder aux ordres de son oncle qu'à lui résister ? Ne vois-tu pas, quelque douleur que cela me cause, que mieux valait qu'il fût de ce voyage pour le hâter par tous les moyens possibles, pour prévenir peut-être des dangers dans lesquels le seigneur Kéraban risque de se jeter avec son entêtement habituel ? Non, Nedjeb, non. En partant, Ahmet a fait preuve de courage. En partant, il m'a donné une nouvelle preuve de son amour. « Il faut que vous ayez raison, ma chère maîtresse. » répondit Nedjeb, qui, emporté par la vivacité de son sang de zingare, ne pouvait se rendre. Oui, le seigneur Ahmet s'est montré énergique en partant. Mais n'eût-il pas été plus énergique encore s'il eût empêché son oncle de partir ? Était-ce possible, Nedjeb ? Reprit Amasia. Je te le demande, était-ce possible ? Oui. Non. Peut-être, répondit Nedjeb. Il n'y a pas de barre de fer qu'on ne puisse faire plier. Ou brisé au besoin. Ah, cet oncle Kéraban, c'est bien à lui seul qu'il faut s'en prendre. Et s'il arrive quelque accident, c'est lui seul qui en sera responsable. Et quand je pense que c'est pour ne pas payer 10 paras qu'il fait le malheur du seigneur Ahmet, le vôtre, et par conséquent le mien. Je voudrais, oui, je voudrais que la mer Noire débordât jusqu'aux dernières limites du monde pour voir s'il s'obstinerait encore à en faire le tour. Il le ferait, répondit Amasia d'un ton de conviction profonde. « Mais parlons d'Ahmet, Nedjeb, et ne parlons que de lui. » En ce moment, Yarhud venait de quitter son canot et, sans être vu, il s'avançait vers les deux jeunes filles. Au bruit de ses pas, toutes deux se retournèrent. Leur surprise, mêlée d'un peu de crainte, fut grande en l'apercevant près d'elles. Nedjeb s'était relevée la première. « Vous, capitaine ? » dit-elle. « Que venez-vous faire ici ? Que voulez-vous donc ?»« Je ne veux rien. » répondit Yarhud en feignant quelque étonnement de se voir accueilli de la sorte. « Je ne veux rien, si ce n'est me mettre à votre disposition pour... pour ?» répéta Nedjeb. « Pour vous conduire à bord de la tartane, » répondit le capitaine. « N'avez-vous pas décidé de venir visiter sa cargaison et de faire un choix de ce qui pourrait vous convenir ?»« C'est vrai, chère maîtresse, » s'écria Nedjeb. « Nous avions promis au capitaine... Nous avions promis quand Ahmet était encore là, » répondit la jeune fille. « Mais Ahmet est parti, et il n'y a plus lieu de nous rendre à bord de la guidare. » Les sourcils du capitaine se froncèrent un instant. Puis, du ton le plus calme, « La guidare, dit-il, ne peut faire un long séjour dans la baie d'Odessa, et il est possible que j'appareille demain ou après-demain au plus tard. Si donc la fiancée du seigneur Ahmet veut faire acquisition de quelques-unes de ces étoffes dont les échantillons ont paru lui plaire, il faudrait profiter de cette occasion. Mon canot est là, et en quelques instants, nous pourrons être à bord. « Nous vous remercions, capitaine, » répondit froidement Amasia, « mais j'aurais peu de goût à m'occuper de pareilles fantaisies en l'absence du seigneur Ahmet. Il devait nous accompagner dans cette visite à la Guidare. Il devait nous aider de ses conseils. Il n'est plus là, et sans lui, je ne peux et ne veux rien faire. »
Je le regrette, répondit Yarhud, d'autant plus que le seigneur Ahmet, je n'en doute pas, serait agréablement surpris à son retour si vous aviez fait ses acquisitions. C'est une occasion qui ne se retrouvera plus et que vous regretterez.
Cela est possible, capitaine, répondit Nedjeb, mais en ce moment vous ferez mieux, je pense, de ne point insister à ce sujet.
Soit, reprit Yarhud en s'inclinant. Toutefois, laissez-moi espérer que si, dans quelques semaines, les hasards de ma navigation ramenaient la Guidare à Odessa, vous voudriez bien ne point oublier que vous aviez promis de lui rendre visite.
Nous ne l'oublierons pas, capitaine, répondit Amasia en faisant comprendre au Maltais qu'il pouvait se retirer. Yarhud salua donc les deux jeunes filles. Il fit quelques pas vers la terrasse, puis, s'arrêtant, comme si quelque idée lui fût venue soudain, il revint vers Amasia au moment où la jeune fille allait quitter la galerie.
Un mot encore, dit-il, ou plutôt une proposition, qui ne peut qu'être agréable à la fiancée du seigneur Ahmet.
De quoi s'agit-il ? Demanda Amasia, un peu impatientée de cette obstination du capitaine Maltais à lui imposer sa présence et cette conversation dans la villa.
Le hasard m'a fait assister à toute cette scène qui a précédé le départ du seigneur Ahmet.
Le hasard ? Répondit Amasia, devenue méfiante comme par un pressentiment.
Le hasard seul, répondit Yarhud. J'étais là, dans mon canot, qui était resté à votre disposition.
Quelle proposition avez-vous à nous faire, capitaine ? Demanda la jeune fille.
Une proposition très naturelle, répondit Yarhud. J'ai vu combien la fille du banquier Sélim avait été affectée de ce brusque départ, et s'il lui plaisait de revoir encore une fois le seigneur Ahmet.
Revoir encore une fois ? Que voulez-vous dire ?
Répondit Amasia, dont le cœur battit à cette pensée.
Je veux dire, reprit Yarhud, que dans une heure, l'équipage du seigneur Kéraban passera nécessairement à la pointe de ce petit cap que vous apercevez là-bas.
Amasia s'était avancée et regardait la légère courbure de la côte à l'endroit indiqué par le capitaine. Là ? Là ?
Fit-elle.
Oui.
Chère maîtresse, s'écria Nedjeb, si nous pouvions nous rendre à cette pointe.
Rien n'est plus facile, répondit Yarhud. En une demi-heure, avec le vent portant, la Guidare peut avoir atteint ce cap, et, si vous voulez vous embarquer, nous appareillerons immédiatement.
Oui, oui ! S'écria Nedjeb, qui ne voyait, dans cette promenade en mer, qu'une occasion pour Amasia de revoir encore une fois son fiancé. Mais Amasia avait réfléchi. Devant cette hésitation, le capitaine n'avait pu retenir un mouvement qui ne lui avait point échappé. Il lui sembla alors que la physionomie de Yarhud ne prévenait guère en sa faveur. Elle redevint défiante. Quittant la balustrade, sur laquelle elle s'était accoudée pour mieux apercevoir la prolongation du littoral, Amasia rentra dans la galerie avec Nedjeb, dont elle avait saisi la main.
« J'attends vos ordres ?» dit le capitaine.
« Non, capitaine, » répondit Amasia. « En revoyant mon fiancé dans ces conditions, je crois que je lui ferai moins de plaisir que de peine. »
Yarhud, comprenant que rien ne ferait revenir la jeune fille sur son refus, se retira froidement.
Un instant après, l'embarcation débordait, emmenant le capitaine Maltais et ses hommes. Puis, elle accostait la tartane et restait élongée sur son flanc de bâbord, tournée au large. Les deux jeunes filles demeurèrent seules dans la galerie pendant une heure encore. Amasia revint s'accouder sur la balustrade. Elle regardait obstinément ce point du littoral indiqué par Yarhud que devait franchir la chaise du seigneur Kéraban. Nedjeb observait, comme elle, ce retour de la côte qui se développait à près d'une lieue dans l'est. Au bout d'une heure, en effet, la jeune zingarde s'écriait
« Ah, chère maîtresse, voyez, voyez, n'apercevez-vous pas une voiture qui suit la route là-bas au sommet de la falaise ?»«
Oui, oui, » répondit Amasia. « Ce sont eux, c'est lui, lui.
Il ne peut vous voir.
Qu'importe, je sens qu'il me regarde. »
« N'en doutez pas, chère maîtresse, » répondit Nedjeb. « Ses yeux auront bien su découvrir la villa au milieu des arbres, au fond de la baie, et peut-être nous. »«
Au revoir, mon Ahmet, au revoir, »
dit une dernière fois la jeune fille, comme si cet adieu eût pu parvenir jusqu'à son fiancé. Amasia et Nedjeb, lorsque la chaise de poste eut disparu au tournant de la route, sur l'extrême pente de la falaise, quittèrent la galerie et regagnèrent l'intérieur de l'habitation. Du pont de la Tartane,
Yarhud les vit se retirer, et il donna l'ordre aux hommes de car de guetter leur retour, si elles revenaient, lorsque la nuit commencerait à tomber. Alors, il agirait par la force, puisque la ruse n'avait pu lui réussir. Sans doute, depuis le départ d'Ahmet, avec cette heureuse circonstance que le mariage ne se ferait pas avant 6 semaines, l'enlèvement de la jeune fille ne demandait plus à être accompli aussi hâtivement. Mais il fallait compter avec les impatiences du seigneur Saffar, dont la rentrée à Trébizonde était peut-être prochaine. Or, étant donné les incertitudes d'une navigation sur la mer Noire, un bâtiment à voile peut éprouver des retards de 15 à 20 jours. Il importait donc de partir le plus tôt possible si Yarhud voulait arriver à l'époque fixée dans son entretien avec l'intendant Scarpante. Sans doute, Yarhud était un coquin, mais c'était un coquin qui tenait à faire honneur à ses engagements. De là, son projet d'opérer sans perdre un seul instant. Les circonstances ne devaient que trop le servir. En effet, vers le soir, avant même que son père fût revenu de la maison de banque, Amasia rentra dans la galerie. Elle était seule, cette fois. Sans attendre que la nuit fût complète, la jeune fille voulait revoir encore une fois ce lointain panorama de falaises qui fermait l'horizon dans le nord. C'était par là que s'en allait tout son cœur. Elle reprit donc cette place, à laquelle elle reviendrait souvent, sans doute. Elle s'accouda sur la balustrade et demeura pensive, ayant dans les yeux un de ces regards qui vont au-delà du possible et qu'aucune distance ne peut arrêter. Mais aussi, perdue dans ses réflexions, Amasia n'aperçut pas une embarcation qui se détachait de la guidare, déjà à peine visible dans l'ombre. Elle ne la vit pas s'approcher sans bruit, longer en les contournant les degrés de la terrasse et s'arrêter aux premières marches que baignaient les eaux de la baie. Cependant, Yarhud, suivi de 3 matelots, s'était glissé en rampant sur les gradins. La jeune fille, absorbée dans sa rêveuse pensée, ne l'avait pas aperçue. Soudain, Yarhud, bondissant sur elle, la saisit avec tant de force et d'à-propos qu'elle fut dans l'impossibilité de lui résister. « À moi ! À moi !» put cependant crier la malheureuse enfant. Ses cris furent aussitôt étouffés, mais ils avaient été entendus de Nedjeb qui venait chercher sa maîtresse. À peine la jeune zingare eut-elle franchi la porte de la galerie que 2 des matelots, se jetant sur elle, comprimaient aussitôt ses mouvements et ses cris. « À bord !» dit Yarhud. Les 2 jeunes filles, irrésistiblement emportées, furent déposées dans l'embarcation qui déborda pour rallier la tartane. La guidare, son ancre à pic, ses voiles hautes, n'avait plus qu'à déraper pour appareiller. C'est ce qui fut fait. Dès qu'Amasia et Nedjeb eurent été enfermés à bord, dans une cabine de l'arrière, ne pouvant plus rien voir, ne pouvant plus se faire entendre. Cependant, la tartane, ayant pris le vent, s'inclinait sous ses grandes antennes, de manière à sortir de la petite anse qui bordait les murs de la villa. Mais, si rapidement qu'eût été fait ce coup de force, il avait éveillé l'attention de quelques serviteurs occupés dans les jardins. L'un d'eux avait entendu le cri poussé par Amasia. Il donna aussitôt l'alarme. À ce moment, le banquier Sélim rentrait à son habitation. Il fut mis au courant de ce qui venait de se passer. Dans une angoisse dont il ne pouvait se rendre compte, il chercha sa fille. Sa fille avait disparu. Mais, en voyant la tartane évoluer pour doubler l'extrémité sud de la petite anse, Sélim comprit tout. Il courut à travers les jardins, vers une pointe que devait raser d'assez près la guidare afin d'éviter les dernières roches du littoral. « Misérable ! » criait-il. « On enlève ma fille ! Ma fille ! Amasia, arrêtez-les ! Arrêtez !» Un coup de feu, parti du pont de la guidare, fut l'unique réponse à son appel. Sélim tomba frappé d'une balle à l'épaule. Un instant après, la tartane, toute voile dessus, enlevée par la fraîche brise du soir, avait disparu au large de l'habitation. Fin de la section 11, chapitre 11 de la première partie, lu par Ezoa, en Belgique, en février 2009. Section 12, chapitre 12 de la première partie de Kéraban le Têtu. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public.
Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Kéraban le têtu, par Jules Verne, première partie, chapitre 12, dans lequel Van Mitten raconte une histoire de tulipe qui intéressera peut-être le lecteur. La chaise de poste, attelée de chevaux frais, avait quitté Odessa vers 1 heure de l'après-midi. Le seigneur Kéraban occupait le coin de gauche du coupé, Van Mitten le coin de droite, Ahmet la place du milieu. Bruno et Nizib étaient remontés dans le cabriolet, où le temps se passait pour eux moins à causer qu'à dormir. Un soleil assez vif égayait la campagne, et les eaux de la mer se détachaient en bleu sombre sur les falaises grisâtres du littoral. Dans le coupé, on commença par être tout aussi silencieux que dans le cabriolet, à cela près que, si l'on sommeillait en haut, on réfléchissait en bas. Le seigneur Kéraban s'enfonçait avec délices dans ses rêves d'entêtement et ne songeait qu'au « bon tour » qu'il prétendait jouer aux autorités ottomanes. Van Mitten pensait à ce voyage imprévu et ne cessait de se demander pourquoi lui, citoyen des provinces bataves, il était lancé sur les routes littorales de la mer Noire lorsqu'il pouvait tranquillement rester dans le faubourg de Péra, à Constantinople. Ahmet, lui, avait franchement pris son parti de ce départ, mais il était bien décidé à ne point épargner la bourse de son oncle dans tous les cas où un retard devrait être évité ou un obstacle franchi à prix d'argent. On irait par le plus court, mais aussi par le plus vite. Le jeune homme ruminait tout cela dans sa tête quand, au tournant du petit cap, il aperçut au fond de la baie la villa du banquier Sélim. Ses yeux se fixèrent sur ce point, sans doute au moment où les yeux d'Amasia se portaient vers lui. Et il est probable que leurs regards se croisèrent sans avoir pu s'atteindre. Puis, s'adressant à son oncle, Ahmet, résolu à toucher une question des plus délicates, lui demanda s'il avait arrêté minutieusement tous les détails de l'itinéraire. « Oui, mon neveu, » répondit Kéraban, « nous suivrons, sans jamais l'abandonner, la route qui contourne le littoral. » « Et nous nous dirigeons, en ce moment ?»«
Sur Koblevo, à 12 lieues d'Odessa, et je compte bien y arriver ce soir. »
Et une fois à Koblevo, demanda Ahmet.
Nous voyagerons toute la nuit, mon neveu, afin d'arriver à Nikolaïev demain, vers midi, après avoir franchi les 18 lieues qui séparent cette ville de la bourgade.
Très bien, oncle Kéraban. Il s'agit d'aller vite, en effet. Mais, arrivé à Nikolaïev, ne songerez-vous pas à atteindre en quelques jours seulement les districts du Caucase?
Et comment?
En usant des chemins de fer de la Russie méridionale qui, par Alexandrov et Rostov, nous permettrons d'accomplir ainsi un bon tiers de notre voyage.
« Les chemins de fer !»
s'écria Kéraban. En ce moment, Van Mitten poussa légèrement le coude de son jeune compagnon. « Inutile !» lui dit-il à mi-voix. « Discussion inutile. Horreur des chemins de fer !» Ahmet n'était pas sans savoir quelles étaient les idées de son oncle sur ses moyens de locomotion trop modernes pour un fidèle du vieux parti turc. Mais enfin, en ces conjonctures, il lui semblait que le seigneur Kéraban pourrait bien, pour une fois, se départir de ses déplorables préventions. Céder même un instant sur un point quelconque! Kéraban n'eût plus été Kéraban.
« Tu parles de chemin de fer, je crois ? »
dit-il. « Sans doute, mon oncle.
Tu veux que moi, Kéraban, je consente à faire ce que je n'ai jamais fait encore ?
Il me semble que...
Tu veux que moi, Kéraban, je me fasse stupidement traîner par une machine à vapeur ?
Quand vous aurez essayé...
Ahmet, il est évident que tu ne réfléchis pas à ce que tu as l'audace de me proposer.
Mais mon oncle...
Je dis que tu ne réfléchis pas, puisque tu te permets de formuler cette proposition.
Je vous assure, mon oncle, que dans ces wagons...
Wagons ?
Dit Kéraban, en répétant ce mot d'importation étrangère avec une intonation difficile à rendre. Oui, ces wagons qui glissent sur des rails...
Rails ?
Fit Kéraban.
« Quels sont ces horribles mots? Et quelle langue parlons-nous, s'il te plaît ?»«
Mais la langue des voyageurs modernes ?»«
Dis donc, mon neveu !» répondit l'entêté personnage en s'animant. « Est-ce que j'ai l'air d'un voyageur moderne qui consente jamais à monter en wagon et à se faire tirer par une mécanique? Est-ce que j'ai besoin de glisser sur des rails quand je puis rouler sur une route ?»«
Lorsqu'on est pressé, mon oncle,
Ahmet, regarde-moi bien en face et retiens ceci. » Il n'y aurait plus de voiture que j'irais en charrette.
plus de charrette, que j'irais à cheval, plus de cheval, que j'irais à âne, plus d'âne, que j'irais à pied, plus de pied, que j'irais à genoux, plus de genoux, que j'irais...
Ami Kéraban, arrêtez-vous de grâce, s'écria Van Mitten.
Que j'irais sur le ventre, répliqua le seigneur Kéraban. Oui, sur le ventre. Et saisissant le bras d'Ahmet, est-ce que tu as jamais entendu dire que Mahomet ait pris le chemin de fer pour aller à la Mecque?
À ce dernier argument, il n'y avait évidemment rien à répondre. Aussi, Ahmet, qui aurait pu répliquer que, s'il y avait eu des chemins de fer de son temps, Mahomet les eût pris sans doute, se tut-il, pendant que le seigneur Kéraban continuait à grommeler dans son coin, en dénaturant à plaisir tous les mots de l'argot réloyen. Cependant, si la chaise ne pouvait prétendre à lutter de rapidité avec un express, elle marchait bien. Son attelage, sur une route assez bonne, l'enlevait au petit galop, et il n'y avait pas à se plaindre. Les chevaux ne manquaient point au relais. Ahmet, qui s'était chargé du règlement de toutes les dépenses, son oncle y avait volontiers consenti, payait des surtaxes et soldait les bakchiches ou pourboires des postillons avec une générosité impériale. Les billets s'envolaient de sa poche. On eût dit d'un cavalier semant des roubles sur les chemins d'un « rally paper ». Tant et si bien que, le jour même, la chaise, en longeant le littoral, passa par les bourgades de Choumirka, d'Alexandrovka, et le soir, arriva à la bourgade de Koblevo. De là, pendant la nuit, remontant dans l'intérieur de la province de manière à franchir le Bug, à la hauteur de Nikolaïev, à travers le gouvernement de Kherson, les voyageurs atteignirent facilement cette ville, vers le midi du 28 août. 3 heures de halte retinrent la chaise devant un hôtel passable, qui fournit un déjeuner de même qualité, dont Bruno prit sa bonne part. Ahmet profita de ce répit pour écrire au banquier Sélim que le voyage se faisait dans des conditions acceptables, en ajoutant de bien douces choses pour Amasia. Le seigneur Kéraban, lui, ne crut pas pouvoir mieux passer ses heures d'attente qu'en prolongeant le dessert entre les suaves absorptions du moka et les odorantes aspirations de son narguilé. Quant à Van Mitten, d'accord avec Bruno sur ce point qu'il valait autant que ce singulier voyage servît à leur instruction, il alla visiter cette ville de Nikolaïev, dont la prospérité s'accroît visiblement aux dépens de sa rivale Kherson, et menace même de substituer son nom au sien dans l'appellation géographique du gouvernement. Ahmet fut le premier à donner le signal du départ. Le Hollandais n'eut garde de le faire attendre. Le seigneur Kéraban lança la dernière bouffée de son narguilé au moment où le postillon se mettait en selle, et la chaise prit la route qui descend vers Kherson. Il y avait 17 lieues à faire à travers un pays peu fertile. Ça et là, des mûriers, des peupliers, des saules. Aux approches du Dnieper, dont le cours de près de 400 lieues se termine à Kherson, s'étendent de longues plaines de roseaux qui semblaient tachetées de bleuets. Mais ces bleuets s'envolaient à tire d'ailes au bruit de la chaise. C'étaient des jets azurés, et leur piaulement causait plus de déplaisirs aux oreilles que leur chatoyante couleur ne causait de plaisir aux yeux. Le 29 août, dès l'aube, le seigneur Kéraban et ses compagnons, après une nuit sans incident, arrivaient à Kherson, chef-lieu du gouvernement, dont la fondation est due à Potemkin. Les voyageurs ne purent que se féliciter de cette création de l'impérieux favori de Catherine II. Là, en effet, se trouvait un bon hôtel dans lequel ils firent halte pendant quelques heures et des magasins suffisamment approvisionnés pour refaire les réserves comestibles de la chaise. Tâche dont Bruno, infiniment plus débrouillard que Nizib, s'acquitta à merveille. Quelques heures plus tard, il relayait à l'importante bourgade d'Aleshki et se dirigeait en redescendant vers l'isthme de Perekop qui rattache la Crimée au littoral de la Russie méridionale. Ahmet n'avait point négligé d'adresser à Odessa une lettre datée de la bourgade d'Aleshki. Quand ils eurent repris place dans la chaise, lorsque l'attelage fut lancé à fond de train sur la route de Perekop, le seigneur Kéraban demanda à son neveu s'il avait eu l'attention d'envoyer ses meilleurs à là, en même temps que les siens, à son ami Sélim. « Oui, sans doute, je ne l'ai point oublié, mon oncle, » répondit Ahmet, « et j'ai même ajouté que nous faisions toute diligence pour atteindre Scutari le plus tôt possible. »«
Tu as bien fait, mon neveu, et il ne faudra pas négliger de donner de nos nouvelles toutes les fois que nous aurons un bureau de poste à notre disposition. »
« Malheureusement, comme nous ne savons jamais d'avance où nous nous arrêterons, » fit observer Ahmet, « nos lettres resteront toujours sans réponse. »
« En effet, » ajouta Van Mitten. « Mais à ce propos,
dit Kéraban en s'adressant à son ami de Rotterdam, il me semble que vous n'êtes pas très pressé de correspondre avec Madame Van Mitten. Que pensera cette excellente femme de votre négligence à son égard ?
Madame Van Mitten ? Répondit le Hollandais.
Oui.
Madame Van Mitten est, à coup sûr, une fort honnête dame. Comme femme, je n'ai jamais eu un seul reproche à lui adresser. Mais comme compagne de ma vie...
Au fait, ami Kéraban, pourquoi parlons-nous de Madame Van Mitten ?
Eh, parce que, autant qu'il m'en souvient, c'était une très aimable personne.
Ah ? Fit Van Mitten, comme si on lui eût appris une chose toute nouvelle pour lui.
Ne t'en ai-je pas parlé dans les meilleurs termes, neveu Ahmet, lorsque je suis revenu de Rotterdam ?
En effet, mon oncle.
Et pendant mon voyage, n'ai-je pas été particulièrement charmé de l'accueil qu'elle me fit ?
Ah ? Répéta Van Mitten.
Cependant, reprit Kéraban, elle avait bien parfois, j'en conviens, quelques idées singulières, des caprices, des vapeurs. Mais cela est inhérent au caractère des femmes, et si l'on ne peut leur passer cela, mieux vaut n'en jamais prendre. C'est précisément ce que j'ai fait.
Et vous avez fait sagement, répondit Van Mitten.
Elle aime toujours passionnément les tulipes, en vraie hollandaise qu'elle est ?
Demanda Kéraban. Passionnément.
Voyons, Van Mitten, parlons avec franchise. Je vous trouve froid pour votre femme.
Froid serait une expression encore trop chaude pour ce que j'éprouve à son égard.
Vous dites ?
S'écria Kéraban. Je dis, répondit le Hollandais, que je ne vous aurais peut-être jamais parlé de Madame Van Mitten. Mais puisque vous m'en parlez, et puisque l'occasion s'en présente, je vais vous faire un aveu.
Un aveu ?
Oui, ami Kéraban. Madame Van Mitten et moi, nous sommes présentement séparés.
Séparés ?
S'écria Kéraban.
D'un commun accord ?
D'un commun accord.
Et pour toujours ?
Pour toujours.
Comptez-moi donc cela, à moins que l'émotion...
L'émotion ? Répondit le Hollandais. Et pourquoi voulez-vous que je ressente de l'émotion ?
Alors parlez, parlez, Van Mitten, reprit Kéraban. En ma qualité de Turc, j'aime les histoires. Et en ma qualité de célibataire, j'adore surtout les histoires de ménage.
Eh bien, ami Kéraban, reprit le Hollandais, du ton dont il eût conté les aventures d'un autre, depuis quelques années, la vie était devenue intolérable entre Madame Van Mitten et moi. Discussions incessantes sur toutes choses, sur l'heure de se lever, sur l'heure de se coucher, sur l'heure des repas, sur ce qu'on mangerait, sur ce qu'on ne mangerait pas, sur ce qu'on boirait, sur ce qu'on ne boirait pas, sur le temps qu'il faisait, sur le temps qu'il allait faire, sur le temps qu'il avait fait, sur les meubles que l'on placerait ici ou que l'on placerait là, sur le feu qu'il fallait allumer dans une chambre plutôt que dans l'autre, sur la fenêtre qu'il convenait d'ouvrir, sur la porte qu'il convenait de fermer, sur les plantes que l'on planterait dans le jardin, sur celles qu'on arracherait, enfin...
« Enfin, ça allait bien !» dit Kéraban.
« Comme vous voyez. Mais ça allait surtout en empirant, parce qu'au fond, je suis d'un caractère doux, d'un tempérament docile, et que je cédais surtout pour n'avoir de querelle sur rien. »«
C'était peut-être le plus sage, » dit Ahmet.
« C'était au contraire le moins sage, »
répondit Kéraban, prêt à soutenir une discussion sur ce sujet.
« Je n'en sais rien, » reprit Van Mitten. « Mais quoi qu'il en soit, dans notre dernière dispute, j'ai voulu résister. J'ai résisté, oui, comme un véritable Kéraban.
Par Allah, cela n'est pas possible !
S'écria l'oncle d'Ahmet qui se connaissait bien.
Plus qu'un Kéraban, ajouta Van Mitten.
Mahomet me protège ! Répondit Kéraban.
Mais prétendre que vous êtes plus entêté que moi ?
C'est évidemment improbable, répondit Ahmet avec un accent de conviction qui alla jusqu'au cœur de son oncle.
« Vous allez voir, » reprit tranquillement Van Mitten, et « Nous ne verrons rien !» s'écria Kéraban.
« Veuillez m'entendre jusqu'au bout. » C'était à propos de tulipes, cette discussion qui s'éleva entre Madame Van Mitten et moi. De ces belles tulipes d'amateurs, de ces guénères, qui montent droit sur leurs tiges et dont il y a plus de 100 variétés. Je n'en avais pas qui me coûtassent moins de 1000 florins l'oignon.
« 8000 piastres, » dit Kéraban, habitué à tout chiffrer en monnaie turque.
« Oui. » 8000 piastres environ, répondit le Hollandais.
Or, ne voilà-t-il pas que Madame Van Mitten s'avise un jour de faire arracher une Valencia pour la remplacer par un œil de soleil ? Cela passait les bornes, je m'y oppose. Elle s'entête, je veux la saisir, elle m'échappe, elle se précipite sur la Valencia, elle l'arrache.
Coût, 8000 piastres,
dit Kéraban. Alors, reprit Van Mitten, je me jette à mon tour sur son œil de soleil que j'écrase.
Coût 16 000 piastres, dit Kéraban.
Elle tombe sur une seconde Valencia, dit Van Mitten.
Coût 24 000 piastres,
répondit Kéraban, comme s'il eût passé les écritures de son livre de caisse. Je lui réponds par un second œil de soleil.
Coût 32 000 piastres.
Et alors la bataille s'engage, reprit Van Mitten. Madame Van Mitten ne se possédait plus. Je reçois deux magnifiques cailleux du plus grand prix par la tête.
Coût 48 000 piastres.
Elle en reçoit trois autres en pleine poitrine.
Coût 72 000 piastres.
C'était une véritable pluie d'oignons de tulipes, comme on n'en a peut-être jamais vu. Cela a duré une demi-heure. Tout le jardin y a passé, puis la serre après le jardin. Il ne restait plus rien de ma collection.
Et finalement, ça vous a coûté ?
Demanda Kéraban. Plus cher que si nous ne nous étions jetés que des injures à la tête, comme les économes héros d'Homère, soit environ 25 000 florins.
200 000 piastres.
Note, environ 50 000 francs. Dit Kéraban. Mais je m'étais montré.
Ça valait bien cela.
Et là-dessus, reprit Van Mitten, je suis parti, après avoir donné des ordres pour réaliser ma part de fortune et la verser à la banque de Constantinople. Puis j'ai fui Rotterdam avec mon fidèle Bruno, bien décidé à ne rentrer dans ma maison que lorsque Madame Van Mitten l'aura quitté. Pour un monde meilleur. Où il ne pousse pas de tulipes, dit Ahmet. Eh bien, ami Kéraban, reprit Van Mitten, avez-vous eu beaucoup d'entêtement qui vous ait coûté 200 000 piastres ?
Moi ?
Répondit Kéraban, légèrement piqué par cette observation de son ami. Mais certainement, dit Ahmet, mon oncle en a eu, et pour ma part, j'en connais au moins un.
Et lequel, s'il vous plaît ?
Demanda le Hollandais.
Mais cet entêtement qui le pousse pour ne pas payer 10 paras à faire le tour de la mer Noire, ça lui coûtera plus cher que votre averse de tulipes.
Ça coûtera ce que ça coûtera, riposta le seigneur Kéraban d'un ton sec.
Mais je trouve que l'ami Van Mitten n'a pas payé sa liberté d'un trop haut prix. Voilà ce que c'est de n'avoir affaire qu'à une seule femme. Mahomet connaissait bien ce sexe enchanteur quand il permettait à ses adeptes d'en prendre autant qu'il le pouvait.
Certes, répondit Van Mitten, je pense que 10 femmes sont moins difficiles à gouverner qu'une seule.
Et ce qui est moins difficile encore, ajouta Kéraban en manière de moralité, c'est pas de femme du tout.
Sur cette observation, la conversation fut close. La chaise arrivait alors à une maison de poste. On relaya, on courut toute la nuit. Le lendemain, à midi, les voyageurs, assez fatigués, mais sur les instances d'Ahmet, décidés à ne pas perdre une heure, après avoir passé par Bolchoï Kopani et Kalantchak, arrivaient à la bourgade de Perekop, au fond du golfe de ce nom, à l'amorce même de l'isthme qui rattache la Crimée à la Russie méridionale. Fin de la section 12, chapitre 12 de la première partie. Lu par Ezoy, en Belgique, en mars 2009.
Section 13, chapitre 13 de la première partie de Kéraban le Têtu. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Kéraban le Têtu par Jules Verne. Première partie. Chapitre 13, dans lequel on traverse obliquement l'ancienne tauride et avec quel attelage on l'en sort. La Crimée, cette Chersonèse taurique des anciens, un quadrilatère, ou plutôt un losange irrégulier, qui semble avoir été enlevé au plus enchanteur des rivages de l'Italie, une presqu'île dont M. Ferdinand de Lesseps ferait une île en 2 coups de canif, un coin de terre qui fut l'objectif de tous les peuples, jaloux de se disputer l'Empire d'Orient. Un ancien royaume du Bosphore, que soumirent successivement les Héracléens, 600 ans avant l'ère chrétienne, puis Mithridate, les Alains, les Goths, les Huns, les Hongrois, les Tartares, les Génois. Une province enfin dont Mahomet II fit une riche dépendance de son empire et que Catherine II rattacha définitivement à la Russie en 1791. Comment cette contrée, bénie des dieux et si disputée des mortels, eût-elle pu échapper à l'enlacement des légendes mythologiques? N'a-t-on pas voulu retrouver dans les marécages du Sivac des traces des gigantesques travaux de ce problématique peuple des Atlantes? Les poètes de l'Antiquité, n'ont-ils pas placé une entrée des enfers près du cap Kerberian, dont les trois môles formaient le Cerbère aux trois têtes ? Iphigénie, la fille d'Agamemnon et de Clytemnestre, devenue prêtresse de Diane en Tauride, ne fut-elle pas sur le point d'immoler à la chaste déesse son frère Oreste, jeté par les vents au rivage du cap Parthénium ? Et maintenant, la Crimée, dans sa partie méridionale, qui vaut plus à elle seule que toutes les arides îles de l'archipel, avec ce Tchadir Dag, qui montre à 1500 mètres d'altitude sa table où l'on pourrait dresser un festin pour tous les dieux de l'Olympe, ses amphithéâtres de forêt, dont le manteau de verdure s'étend jusqu'à la mer, ses bouquets de marronniers sauvages, de cyprès, d'oliviers, d'arbres de Judée, d'amandiers, de cytises, ses cascades chantées par Pouchkine, n'est-elle point le plus beau joyau de cette couronne de province qui s'étend de la mer Noire à la mer Arctique ? N'est-ce pas sous ce climat vivifiant et tempéré que les Russes du Nord, aussi bien que les Russes du Sud, viennent chercher, les uns un refuge contre les âpretés de l'hiver hyperboréen, les autres un abri contre les desséchantes brises de l'été ? N'est-ce pas là, autour de ce cap Aya, ce front de bélier qui fait tête au flot du pont Euxin, à l'extrême pointe sud de la Tauride, que se sont fondées ces colonies de châteaux, de villas, de cottages, Yalta, Aloupka, qui appartient au prince Vorontsov, manoir féodal à l'extérieur, rêve d'une imagination orientale à l'intérieur, Kiziltash au comte Paniatowski, Artek au prince André Galitzine, Marsanda, Orkanda, Eriklik, propriétés impériales, Livadia, palais admirable avec ses sources vives, ses torrents capricieux, ses jardins d'hiver, retraite favorite de l'impératrice de toutes les Russies. Il semble en outre que l'esprit le plus curieux, le plus sentimental, le plus artiste, le plus romantique, trouverait à satisfaire ses aspirations dans ce coin de terre. Un vrai microcosme dans lequel l'Europe et l'Asie se donnent rendez-vous. Là sont réunis des villages tartares, des bourgades grecques, des villes orientales avec mosquées et minarets, muezzines et derviches, des monastères du rite russe, des sérails de Cannes, des thébaïdes où sont venus s'ensevelir quelques romanesques aventures, des lieux saints vers lesquels rayonnent les pèlerinages, une montagne juive qui appartient à la tribu des Karaïtes et une vallée de Josaphat, creusée comme une succursale de la célèbre vallée du Cédron, où des milliards de justiciables doivent se réunir au son des trompettes du jugement dernier. Que de merveilles aurais-tu à visiter Van Mitten ? Que d'impressions à noter en ce pays où l'entraînait son étrange destinée ? Mais son ami Kerabane ne voyageait pas pour voir, et Ahmet, qui d'ailleurs connaissait toutes ces splendeurs de la Crimée, ne lui eût pas accordé une heure pour en prendre un aperçu sommaire. « Peut-être, après tout, peut-être, se disait Van Mitten, me sera-t-il possible, en passant, de saisir une légère impression de cette antique Chersonèse si justement vantée ?» Il ne devait point en être ainsi. La chaise allait se lancer par le plus court, suivant une ligne oblique du nord au sud-ouest, sans atteindre ni le centre ni la côte méridionale de l'ancienne Tauride. En effet, l'itinéraire tel qu'il suit avait été arrêté en un conseil où le Hollandais n'avait pas eu même voix consultative. Si, en traversant la Crimée, on économisait le tour de la mer d'Azov, qui eût allongé de 150 lieues au moins ce voyage circulaire, on gagnait encore une partie du parcours en coupant droit de Pérékope sur la presqu'île de Kertch. Puis, de l'autre côté du détroit d'Iénikalé, la presqu'île de Taman offrirait un passage régulier jusqu'au littoral caucasien. La chaise roula donc sur l'étroit isthme auquel la Crimée pend comme une magnifique orange à la branche d'un oranger. D'un côté, c'était la baie de Pérékope, de l'autre, les marais de Sivak, plus connus sous le nom de mer putride, vaste étang de 2 milliards de mètres carrés, alimenté par les eaux de la Tauride et par les eaux de la mer d'Azov, auquel la coupure de Guénitché sert de canal. En passant, les voyageurs purent observer ce Sivak, qui n'a guère 1 mètre de profondeur en moyenne, et dont le degré de salure est presque au point de saturation en de certains endroits. Or, comme c'est dans ces conditions que le sel cristallisé commence à se déposer naturellement, on pourrait faire de cette mer putride l'une des plus productives salines du globe. Mais il faut le dire, allonger ce Sivak, il n'y a rien de bien agréable pour l'odorat. L'atmosphère s'y mélange d'une certaine quantité d'acide sulfhydrique, et les poissons qui pénètrent dans ce lac y trouvent presque aussitôt la mort. Ce serait donc là comme un équivalent du lac asphaltite de la Palestine. C'est au milieu de ces marais que se dessine le railway qui descend d'Alexandrov à Sébastopol. Aussi, le seigneur Kéraban put-il entendre avec horreur les sifflements assourdissants que lançaient, dans la nuit, les locomotives hennissantes, en courant sur ces rails auxquels viennent se heurter parfois les lourdes eaux de la mer putride. Le lendemain, 31 août, pendant la journée, le chemin se déroula au milieu d'une campagne verdoyante. C'étaient des bouquets d'oliviers, dont les feuilles, en se retournant sous la brise, semblaient frétiller comme une pluie de vif argent, des cyprès d'un vert qui touchait au noir, des chênes magnifiques, des arbousiers de haute taille. Partout, sur les coteaux, s'étageaient des lignes de ceps qui produisent, sans trop d'infériorité, quelques crus des vignobles de France. Cependant, sous l'instigation d'Ahmet, grâce à ses poignées de roubles qu'il prodiguait, les chevaux étaient toujours prêts à s'atteler à la chaise et les postillons, stimulés, coupaient par le plus court. Le soir, on avait dépassé la bourgade de Dort, et quelques lieues plus loin, on retrouvait les bords de la mer putride. En cet endroit, la curieuse lagune n'est séparée de la mer d'Azov que par une langue de sable peu élevée, faite d'un bourrelet de coquilles, dont la largeur moyenne peut être évaluée à un quart de lieue. Cette langue s'appelle Flèche d'Arabat. Elle s'étend depuis le village de ce nom, au sud, jusqu'à Genitché, au nord, en terre ferme, coupée seulement en cet endroit par une saignée de 300 pieds, par laquelle entrent les eaux de la mer d'Azov, ainsi qu'il a été dit plus haut. Avec le lever du jour, le seigneur Kéraban et ses compagnons furent entourés de vapeurs humides, épaisses, malsaines, qui se dissipèrent peu à peu sous l'action des rayons solaires. La campagne était moins boisée, plus déserte aussi. On y voyait paître en liberté des dromadaires de grande taille, ce qui faisait de cette contrée comme une annexe du désert arabique. Les charrettes qui passaient, construites en bois, sans un seul morceau de fer, assourdissaient l'air en grinçant sur leurs essieux frottés de bitume. Tout cet aspect est assez primitif, mais dans les maisons des villages, dans les fermes isolées, se retrouve encore la générosité de l'hospitalité tartare. Chacun peut y entrer, s'asseoir à la table du maître, puiser aux plats qui y sont incessamment servis, manger à sa faim, boire à sa soif, et s'en aller avec un simple « merci » pour toute rétribution. Il va sans dire que les voyageurs n'abusèrent jamais de la simplicité de ces vieilles coutumes qui ne tarderont pas à disparaître. Ils laissèrent toujours et partout, sous forme de roubles, des marques suffisantes de leur passage. Le soir, l'attelage, épuisé par une longue course, s'arrêtait à la bourgade d'Arabat, à l'extrémité sud de la Flèche. Là, sur le sable, s'élève une forteresse au pied de laquelle les maisons sont bâties pêle-mêle. Partout des massifs de fenouil qui sont de véritables réceptacles à couleuvres et des champs de pastèques dont la récolte est extrêmement abondante. Il était 9 heures du soir lorsque la chaise fit halte devant une auberge d'assez mince apparence. Mais il faut en convenir, c'était encore la meilleure de l'endroit. En ces régions perdues de la Chersonèse, il ne convenait pas de se montrer trop difficile.
« Neveu Ahmet, dit le seigneur Kéraban. « Voilà plusieurs nuits et plusieurs jours que nous courons sans stationner ailleurs qu'au relais de poste. Or, je ne serais pas fâché de m'étendre quelques heures dans un lit, fût-ce même dans un lit d'auberge. »«
Et moi j'en serais enchanté, » ajouta Van Mitten en se redressant sur les reins.
« Quoi ? Perdre 12 heures ? » s'écria Ahmet. « 12 heures sur un voyage de 6 semaines ? »
« Veux-tu que nous entamions une discussion à ce sujet ?»
demanda Kéraban de ce ton quelque peu agressif qui lui allait si bien.
« Non, mon oncle, non, » répondit Ahmet, « du moment que vous avez besoin de repos. »«
Oui, j'en ai besoin. Van Mitten aussi, et Bruno, je suppose, et même Nizib, qui ne demandera pas mieux. »«
Seigneur Kéraban, » répondit Bruno, directement interpellé, « je regarde cette idée comme une des meilleures que vous ayez jamais eues, surtout si un bon souper nous prépare à bien dormir. »
L'observation de Bruno venait très à propos. Les provisions de la chaise étaient presque épuisées. Ce qui en restait dans les coffres, il importait de n'y point toucher avant d'être arrivé à Kertch, ville importante de la presqu'île de ce nom, où elle pourrait être abondamment renouvelée. Malheureusement, si les lits de l'auberge d'Arabat étaient à peu près convenables, même pour des voyageurs de cette importance, l'office laissait à désirer. Ils ne sont pas nombreux les touristes qui, n'importe à quelle époque de l'année, s'aventurent vers les extrêmes confins de la Tauride.
quelques marchands ou négociants sauniers, dont les chevaux ou les charrettes fréquentent la route de Kertch à Pérékop, tels sont les principaux chalands de l'auberge d'Arabat, gens peu difficiles, sachant coucher à la dure et manger ce qui se rencontre. Le seigneur Kéraban et ses compagnons durent donc se contenter d'un assez maigre menu, c'est-à-dire un plat de pilaf, qui est toujours le mets national, mais avec plus de riz que de poulet, et plus d'eau de carcasse que de blanc d'aile. En outre, ce volatile était si vieux, et par suite si dur, qu'il faillit résister à Kéraban lui-même. Mais les solides molaires de l'entêté personnage eurent raison de sa coriacité, et, en cette circonstance, il ne céda pas plus que d'habitude. À ce plat réglementaire succéda une véritable terrine de yaourts ou lait caillé, qui arriva fort à propos pour faciliter la déglutition du pilav. Puis apparurent des galettes assez appétissantes, connues sous le nom de katlamas dans le pays. Bruno et Nizib furent un peu moins bien, ou un peu plus mal partagés, comme on voudra, que leur maître. Certes, leurs mâchoires auraient eu raison du plus récalcitrant des poulets, mais ils n'eurent pas l'occasion de les exercer. Le pilav fut remplacé sur leur table par une sorte de substance noirâtre, fumée comme une plaque de cheminée, après un long séjour au fond de l'âtre. « Qu'est-ce que cela ? » demanda Bruno. « Je ne saurais le dire, » répliqua Nizib. « Comment, vous qui êtes du pays ? » ?»« Je ne suis pas du pays. »« À peu près, puisque vous êtes turc, » répondit Bruno. « Eh bien, mon camarade, goûtez un peu à cette semelle desséchée et vous me direz ce qu'il faut en penser. » Et Nizib, toujours docile, mordit à belles dents dans le morceau de ladite semelle. « Eh bien ?» demanda Bruno. « Eh bien, ça n'est pas bon, certes, mais ça se laisse manger tout de même. »« Oui, Nizib, quand on meurt de faim et qu'on n'a pas autre chose à se mettre sous la dent. »
Et Bruno y goûta à son tour, en homme décidé, pour ne pas maigrir, à risquer le tout pour le tout.
En somme, cela pouvait passer, en l'aidant de quelques verres d'une sorte de bière alcoolisée, ce que firent les deux convives. Mais soudain, Nizib de s'écrier
« Eh ! Allah me vienne en aide ! Qu'est-ce qui vous prend, Nizib ? Si ce que j'ai mangé là était du porc ! » !»«
Du porc ? » répliqua Bruno.
« Ah, c'est juste, Nizib, un bon musulman comme vous ne peut se nourrir de cet excellent mais immonde animal. Eh bien, il me semble que, si ce mets inconnu est du porc, vous n'avez plus qu'une chose à faire.
Et laquelle ?
C'est de le digérer tout tranquillement maintenant qu'il est mangé. »
Cela ne laissait pas d'inquiéter Nizib, très observateur des lois du prophète, et, comme il se sentait la conscience profondément troublée, Bruno dut aller aux informations près du maître de l'auberge. Nizib fut alors rassuré et put laisser sa digestion s'accomplir sans aucun remords. Ce n'était même pas de la viande, c'était du poisson, du chebak, une sorte de Saint-Pierre que l'on fente en deux comme une morue, que l'on sèche au soleil, que l'on fume, en le suspendant au-dessus de l'âtre, que l'on mange cru ou à peu près, et dont il se fait une exportation considérable pour tout le littoral du port de Rostov, situé au fond de la pointe nord-est de la mer d'Azov. Maîtres et serviteurs durent donc se contenter de ce maigre souper de l'auberge d'Arabat. Les lits leur parurent plus durs que les coussins de la voiture, mais enfin, ils n'étaient point soumis aux chaotiques secousses d'une route, ils ne remuaient pas, et le sommeil qu'ils trouvèrent dans ces chambres peu confortables fut suffisant pour les remettre de leurs précédentes fatigues. Le lendemain, 2 septembre, dès le soleil levant, Ahmet était sur pied et s'occupait de chercher la maison de poste pour y prendre des chevaux de relais. L'attelage de la veille, surmené par une étape longue et dure, n'aurait pu se remettre en route sans avoir pris au moins 24 heures de repos. Ahmet comptait amener la chaise tout attelée à l'auberge, de manière que son oncle et Van Mitten n'eussent plus qu'à y monter pour suivre le chemin de la presqu'île de Kertch. La maison de poste était bien là, à l'extrémité du village, avec son toit agrémenté de ses crosses de bois qui ressemblent à des manches de contrebasse. Mais de chevaux frais, il n'y avait point apparence. L'écurie était vide, et même à prix d'or, le maître n'aurait pu en fournir. Ahmet, très désappointé de ce contretemps, revint donc à l'auberge. Le seigneur Kéraban, Van Mitten, Bruno et Nizib, prêts à partir, attendaient que la chaise arrivât. Déjà même, l'un d'eux, il est inutile de le nommer, commençait à donner de visibles signes d'impatience.
« Eh bien, Ahmet, s'écria-t-il, tu reviens seul ? Faut-il donc que nous allions chercher la chaise au relais ?
Ce serait malheureusement inutile, mon oncle,
répondit Ahmet. « Il n'y a plus un seul cheval. »«
Pas de chevaux ?»
dit Kéraban. « Et nous ne pourrons en avoir que demain. »«
Que demain ?»«
Oui, c'est 24 heures à perdre. »«
24 heures à perdre ?» s'écria Kéraban. « Mais j'entends ne pas en perdre 10, pas même 5, pas même une !»
Cependant, fit observer le Hollandais à son ami qui se montait déjà, « s'il n'y a pas de chevaux. »«
Il y en aura !»
répondit le seigneur Kéraban. Et sur un signe, tous le suivirent. Un quart d'heure plus tard, ils atteignaient le relais et s'arrêtaient devant la porte. Le maître de poste se tenait sur le seuil, dans la nonchalante attitude d'un homme qui sait parfaitement qu'on ne pourra l'obliger à donner ce qu'il n'a pas.
« Vous n'avez plus de chevaux ?»
demanda Kéraban d'un ton peu accommodant déjà.
« Je n'ai que ceux qui vous ont amenés hier soir, » répondit le maître de poste, « et ils ne peuvent marcher. » « Et pourquoi, s'il vous plaît, n'avez-vous pas de chevaux frais dans vos écuries ?»«
Parce qu'ils ont été pris par un seigneur turc qui se rend à Kertch, d'où il doit gagner Poti après avoir traversé le Caucase. »«
Un seigneur turc !» s'écria Kéraban. « Un de ces ottomans à la mode européenne, sans doute. Vraiment, ils ne se contentent pas de vous embarrasser dans les rues de Constantinople, il faut encore qu'on les rencontre sur les routes de la Crimée. Et quel est-il ?»«
Je sais qu'il se nomme le seigneur Safar. » « Voilà tout, » répondit tranquillement le maître de poste.
« Eh bien, pourquoi vous êtes-vous permis de donner ce qui vous restait de chevaux à ce seigneur Safar ?»
demanda Kéraban avec l'accent du plus parfait mépris. « Parce que ce voyageur est arrivé au relais, hier matin, 12 heures avant vous, et que les chevaux étant disponibles, je n'avais aucune raison pour les lui refuser. »«
Il y en avait, au contraire. »«
Il y en avait ?» répéta le maître de poste.
« Sans doute, puisque je devais arriver. »
Que peut-on répondre à des arguments de cette valeur? Van Mitten voulut intervenir. Il en fut pour une bourrade de son ami. Quant au maître de poste, après avoir regardé le seigneur Kéraban d'un air goguenard, il allait rentrer dans sa maison lorsque celui-ci l'arrêta en disant
« Peu importe, après tout, que vous ayez des chevaux ou non, il faut que nous partions à l'instant. »
« À l'instant ?» répondit le maître de poste. « Je vous répète que je n'ai pas de chevaux. »
« Trouvez-en !»«
Il n'y en a pas à Arabat. »«
Trouvez-en deux, trouvez-en un !»
répondit Kéraban, qui commençait à ne plus se posséder.
« Trouvez-en la moitié d'un, mais trouvez-en !»
Cependant, s'il n'y en a pas, crut devoir répéter doucement le conciliant Van Mitten.
« Il faut qu'il y en ait !»«
Peut-être pourriez-vous nous procurer un attelage de mules ou mulets ?» demanda Ahmet au maître de poste.
« Soit, des mules ou des mulets !» ajouta le seigneur Kéraban. « Nous nous en contenterons. »«
Je n'ai jamais vu ni mule ni mulet dans la province, » répondit le maître de poste.
« Eh bien, il en voit un aujourd'hui, » murmura Bruno à l'oreille de son maître en désignant Kéraban. « Et un fameux. »«
Des ânes, alors ?» dit Ahmet. « Pas plus d'ânes que de mulets. »«
Pas plus d'ânes !» s'écria le seigneur Kéraban. « Ah ça, vous vous moquez de moi, monsieur le maître de poste ?» « Comment ? Pas d'âne dans le pays ? Pas de quoi faire un attelage quel qu'il soit ? Pas de quoi relayer une voiture ?»
Et l'obstiné personnage, en parlant ainsi, jetait des regards courroucés à droite et à gauche sur une douzaine d'indigènes qui s'étaient assemblés à la porte du relais. « Il serait capable de les faire atteler à sa chaise, » dit Bruno.
« Oui,
eux ou nous, » répondit Nizib en homme qui connaissait bien son maître. Cependant, puisqu'il n'y avait ni chevaux, ni mulets, ni ânes, il devenait évident qu'on ne pourrait partir. Donc, nécessité de se résigner à un retard de 24 heures. Ahmet, que cela contrariait autant que son oncle, allait pourtant essayer de lui faire entendre raison en présence de cette impossibilité absolue, lorsque le seigneur Kéraban de s'écrier
« 100 roubles à qui me procurera un attelage ?»
Un certain frémissement courut parmi les indigènes d'Arabat. L'un d'eux s'avança résolument.
« Seigneur Turc, » dit-il, « j'ai 2 dromadaires à vendre. »« Je les achète, » répondit Kéraban.
Atteler des dromadaires à une chaise de poste, cela ne s'était jamais vu. Cela se vit cette fois. En moins d'une heure, le marché fut conclu, et pour un bon prix. Peu importait. Le seigneur Kéraban en eut payé le double. Les deux bêtes furent donc harnachées tant bien que mal,
attelés au brancard et, sous la promesse d'un pourboire exceptionnel, leur ex-propriétaire, transformé en postillon, se campa en avant de la bosse de l'un de ses ruminants. Puis la chaise, au grand ébahissement de la population d'Arabat, mais à l'extrême satisfaction des voyageurs, descendit la route de Kertch au trot allongé de son étrange attelage. Le soir, on arrivait sans encombre au village d'Argin, à 12 lieues d'Arabat. Pas de chevaux au relais, et toujours par suite du passage du seigneur Saffar. Il fallut se résoudre à coucher à Argin, afin de donner quelque repos aux dromadaires. Le lendemain matin, 3 septembre, la chaise repartait dans les mêmes conditions, franchissant dans la journée la distance qui sépare Argin du village de Mariental, soit 17 lieues, y passait la nuit, le quittait dès l'aube et, dans la soirée, après une étape de 12 lieues, arrivait à Kertch, sans accident, mais non sans rude secousse, dues aux coups de collier de ces robustes bêtes, mal dressées à ce genre de service. En somme, le seigneur Kéraban et ses compagnons, partis depuis le 17 août, après 19 jours de marche, avaient accompli les 3/7 de leur voyage, 300 lieues environ sur 700. Ils étaient donc dans une bonne moyenne, et s'ils s'y maintenaient pendant 26 jours encore, jusqu'au 30 septembre courant, ils devaient avoir achevé le tour de la mer Noire dans les délais voulus. « Et pourtant, » répétait souvent Bruno à son maître, « j'ai le pressentiment que cela finira mal. » « Pour mon ami Kéraban ?»« Pour votre ami Kéraban, ou pour ceux qui l'accompagnent ?» Fin de la section 13, chapitre 13 de la première partie, lu par Ezoa, en Belgique, en septembre 2009. Section 14, chapitre 14 de la première partie de Kéraban le Têtu. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Kéraban le Têtu, par Jules Verne, première partie, chapitre 14. Dans lequel le seigneur Kéraban se montre plus fort en géographie que ne le croyait son neveu Ahmet. La ville de Kertch est située sur la presqu'île qui porte son nom, à l'extrémité orientale de la Tauride. Elle est assise en croissant sur la côte nord de cette langue de terre. Un mont, sur lequel s'élevait autrefois l'acropole, la domine majestueusement. C'est le mont Mithridate. Le nom de ce terrible et implacable ennemi des Romains, qui faillit les chasser de l'Asie, ce général audacieux, ce polyglotte émérite, ce toxicologue légendaire, a justement sa place au front d'une cité qui fut la capitale du royaume du Bosphore. C'est là que ce roi de Pont, ce terrible Eupator, se fit percer de l'épée d'un soldat gaulois, après avoir vainement tenté d'empoisonner ce corps de fer qu'il avait habitué au poison. Tel fut le petit cours d'histoire que Van Mitten, pendant une demi-heure de halte, crut devoir faire à ses compagnons. Ce qui lui attira cette réponse de son ami Kéraban, « Mithridate n'était qu'un maladroit. »«
Et pourquoi ?»
demanda Van Mitten.
« S'il voulait s'empoisonner sérieusement, il n'avait qu'à aller dîner à notre auberge d'Arabat. »
Là-dessus, le Hollandais ne crut pas devoir continuer l'éloge de l'époux de la belle Monime. Mais il se promit bien de visiter sa capitale pendant les quelques heures qui lui seraient laissées. La chaise traversa la ville avec son singulier équipage, pour la plus grande surprise d'une population hybride composée de juifs en très grand nombre, de tatars, de grecs et même de russes, en toute une 12 000 habitants. Le premier soin d'Ahmet, en arrivant à l'hôtel Constantin, fut de s'enquérir s'il pourrait se procurer des chevaux pour le lendemain matin. À son extrême satisfaction, il ne manquait point, cette fois, aux écuries de la maison de poste.
« Il est heureux, fit observer Kéraban, que le seigneur Saffar n'ait pas tout pris à ce relais. »
Mais le peu endurant oncle d'Ahmet n'en garda pas moins une vive rancune à l'égard de cet importun qui se permettait de le devancer sur les routes et de lui prendre ses chevaux. En tout cas, comme il n'avait plus l'emploi des dromadaires, il les revendit à un chef de caravane qui partait pour le détroit d'Iénikalé. Mais il ne les vendit vivants que pour le prix qu'on les eût achetés morts. De là, une perte assez sensible que le rancunier Kéraban porta, in petto, au passif du seigneur Saffar. Il va sans dire que ce Saffar n'était point à Kertch, ce qui lui évita sans doute une discussion des plus sérieuses avec son concurrent. Depuis 2 jours, il avait quitté la ville pour prendre le chemin du Caucase. Circonstance heureuse, puisqu'il ne précéderait plus des voyageurs décidés à suivre la route du littoral.
un bon souper à l'hôtel Constantin, une bonne nuit dans des chambres assez confortables, firent oublier les ennuis passés au maître aussi bien qu'au serviteur. Aussi, une lettre, adressée par Ahmet à Odessa, put-elle dire que le voyage s'accomplissait régulièrement. Comme le départ n'avait été décidé, pour le lendemain, 5 septembre, qu'à 10 heures du matin, le consciencieux Van Mitten se leva en même temps que le soleil, afin de visiter la ville. Il trouva cette fois Ahmet prêt à l'accompagner. Tous deux s'en allèrent donc à travers les larges rues de Kertsch, bordées de trottoirs dallés où fourmillaient des chiens vagabonds, qu'un bohémien, exécuteur patenté de ses basses œuvres, est chargé d'assommer à coups de bâton. Mais sans doute, le bourreau avait passé une partie de la nuit à boire, car Ahmet et le Hollandais eurent quelque peine à échapper aux crocs de ces dangereuses bêtes. Le quai de pierre, construit sur la mer, au fond de la baie formée par un retour de la côte qui se prolonge jusqu'aux rives du détroit, leur permit de se promener plus aisément. Là s'élève le palais du gouverneur et la maison de la douane. Un peu au large, par suite du manque d'eau, sont mouillés les navires, auxquels le port de Kertsch offre un bon ancrage, non loin du lazaret. Ce port est devenu assez commerçant depuis la cession de la ville à la Russie en 1774, et on y trouve un vaste entrepôt de ce sel que fournissent les salines de Pérékop. « Avons-nous le temps de monter là ?» dit Van Mitten en désignant le mont Mithridate, sur lequel se dresse actuellement un temple grec, enrichi des dépouilles de ces tumuli, si nombreux dans la province de Kertsch, temple qui a remplacé l'antique acropole. « Hum !» fit Ahmet. « Il ne faudrait pas risquer de faire attendre l'oncle Kéraban. »« Ni son neveu, » répondit en souriant Van Mitten. « Il est bien vrai, » reprit Ahmet, « que pendant tout ce voyage, je ne songe guère qu'à notre prochain retour à Scutari. Vous me comprenez, monsieur Van Mitten ?»« Oui, je comprends, mon jeune ami, » répondit le Hollandais. « Et pourtant, le mari de madame Van Mitten aurait bien le droit de ne pas vous comprendre. » Sur cette réflexion, trop justifiée par les épreuves du ménage de Rotterdam, tous deux commencèrent à gravir le mont Mithridate, ayant encore 2 heures devant eux avant le départ. De ce point élevé, une vue magnifique s'étend sur la baie de Kertsch. Dans le sud se dessine l'angle extrême de la presqu'île. Vers l'est s'arrondissent les 2 langues de terre qui entourent la baie de Taman, au-delà du détroit d'Iénikalé. Le ciel, assez pur, permettait d'apercevoir alors les divers accidents de la contrée et ses « kourganes » ou « tombeaux anciens » dont la campagne est couverte jusqu'en ses moindres collines de corallite. Lorsque Ahmet jugea que le moment était venu de gagner l'hôtel, il montra à Van Mitten un escalier monumental orné de balustres qui descend du mont Mithridate à la ville et aboutit à la place du marché. Un quart d'heure plus tard, tous deux rejoignaient le seigneur Kéraban, lequel essayait vainement de discuter avec son hôte, un tatar des plus placides. Il était temps d'arriver, car il eût fini par se fâcher en ne trouvant point l'occasion de se mettre en colère. La chaise était là, attelée de bons chevaux d'origine persane, dont il se fait un important commerce à Kertsch. Chacun reprit sa place, et on partit au galop d'un attelage qui ne fit point regretter le trot fatigant des dromadaires. Ahmet n'était pas sans éprouver une certaine inquiétude en approchant du détroit. On se rappelle en effet ce qui s'était passé lorsque l'itinéraire fut modifié à Kherson. Sur les instances de son neveu, le seigneur Kéraban avait consenti à ne point faire le tour de la mer d'Azov afin de couper au plus court par la Crimée. Mais ce faisant, il devait penser que la terre ferme ne lui manquerait en aucun point du parcours. Il se trompait, et Ahmet n'avait rien fait pour dissiper son erreur. On peut être un très bon Turc, un excellent négociant en tabac, et ne pas connaître à fond la géographie. L'oncle d'Ahmet devait probablement ignorer que l'écoulement de la mer d'Azov dans la mer Noire se fait par un large sein, cet antique Bosphore cimérien qui porte le nom du détroit d'Iénikalé et que, par conséquent, il lui faudrait forcément traverser ce détroit entre la presqu'île de Kertsch et la presqu'île de Taman. Or, le seigneur Kéraban avait pour la mer une répugnance que son neveu connaissait de longue date. Que dirait-il donc lorsqu'il se trouverait en face de cette passe, si, à cause des courants ou du peu de profondeur des eaux, il fallait la franchir dans sa plus grande largeur, qui peut être estimée à 20 000? Et s'il refusait obstinément de s'y aventurer? Et s'il prétendait remonter toute la côte orientale de la Crimée pour suivre le littoral de la mer d'Azov jusqu'au premier contrefort du Caucase? Quelle prolongation de voyage!
que de temps perdu, que d'intérêts compromis? Comment serait-on à Scutari pour la date du 30 septembre? Voilà quelle réflexion se faisait Ahmet pendant que la chaise roulait à travers la presqu'île. Avant 2 heures, elle aurait atteint le détroit, et l'oncle saurait à quoi s'en tenir. Convenait-il dès à présent de le préparer à cette grave éventualité? Mais que d'adresse à déployer pour que la conversation ne dégénérât pas en discussion et de discussion en dispute! Si le seigneur Kéraban s'entêtait, rien ne le ferait démordre de son idée, et, bon gré, mal gré, il obligerait la chaise de poste à reprendre le chemin de Kertch. Ahmet ne savait donc à quel parti s'arrêter. S'il avouait sa ruse, il risquait de mettre son oncle hors de lui. Ne vaudrait-il pas mieux, dût-il passer lui-même pour un ignorant, feindre la plus parfaite surprise en trouvant un détroit là où l'on croyait trouver la terre ferme? Qu'Allah me vienne en aide, se dit Ahmet, et il attendit avec résignation que le dieu des musulmans voulût bien le tirer d'affaire. La presqu'île de Kertch est divisée par une longue tranchée, faite aux temps antiques, qu'on appelle le rempart d'Akos. La route, qui la suit en partie, est assez bonne depuis la ville jusqu'au lazaret. Puis, elle devient difficile et glissante en descendant les pentes vers le littoral. L'attelage ne put donc marcher très rapidement pendant la matinée, ce qui permit à Van Mitten de prendre un aperçu plus complet de cette portion de la Chersonèse. En somme, c'était la steppe russe dans toute sa nudité. Quelques caravanes la traversaient et venaient chercher abri le long du rempart d'Akos, campant avec tout le pittoresque d'une halte orientale. D'innombrables kourganes couvraient la campagne et lui donnaient l'aspect peu récréatif d'un immense cimetière. C'était autant de tombeaux que les antiquaires avaient fouillés jusque dans leur profondeur et dont les richesses, vases étrusques, pierres de cénotaphe, bijoux anciens, ornent maintenant les murs du temple et les salles du musée de Kertch. Vers midi apparut à l'horizon une grosse tour carrée flanquée de 4 tourelles. C'était le fort qui s'élève au nord de la bourgade d'Yenikalé. Dans le sud, à l'extrémité de la baie de Kertch, se dessinait le cap Oburum, dominant le littoral de la mer Noire. Puis, le détroit s'ouvrait avec les 2 pointes, qui forment le Liman, ou baie de Taman. Au lointain, les premiers profils du Caucase, sur la côte asiatique, faisaient comme un cadre gigantesque au Bosphore cimérien. Il est bien certain que ce détroit ressemblait à un bras de mer, à ce point que Van Mitten, qui connaissait les antipathies de son ami Kéraban, regarda Ahmet d'un air très étonné. Ahmet lui fit signe de se taire. Très heureusement, l'oncle sommeillait alors, et ne voyait rien des eaux de la mer Noire et de la mer d'Azof qui se confondent dans ce sein, dont la partie la plus étroite mesure de 5 à 6 milles de large. « Diable ! » se dit Van Mitten. Il était vraiment fâcheux que le seigneur Kéraban ne fût pas né quelques 100 ans plus tard. Si son voyage s'était fait à cette époque, Ahmet n'aurait pas eu sujet d'être inquiet comme il l'était en ce moment. En effet, ce détroit tend à s'ensabler et finira, avec l'agglomération des sables coquillés, par ne plus être qu'un étroit chenal à courant rapide. Si, il y a 150 ans, les vaisseaux de Pierre le Grand avaient pu le franchir pour aller assiéger Azof, maintenant, les bâtiments de commerce sont forcés d'attendre que les eaux, refoulées par les vents du sud, leur donnent une profondeur de 10 à 12 pieds. Mais on était en l'an 1882, et non en l'an 2000, et il fallait accepter les conditions hydrographiques telles qu'elles se présentaient. Cependant, la chaise avait descendu les pentes, qui aboutissent à Yenikalé, faisant partir d'assourdissantes volées d'outardes, remisées dans les grandes herbes. Elle s'arrêta à la principale auberge de la bourgade, et le seigneur Kéraban se réveilla. « Nous sommes au relais ?» demanda-t-il. « Oui, au relais d'Yenikalé, » répondit simplement Ahmet. Tous mirent pied à terre et entrèrent dans l'auberge, pendant que la voiture regagnait la maison de poste. De là, elle devait se rendre au quai d'embarquement, où se trouve le bac, destiné au transport des voyageurs à pied, à cheval, en charrette, et même au passage des caravanes qui vont d'Europe en Asie ou d'Asie en Europe. Yenikalé est une bourgade où se fait un lucratif commerce de sel, de caviar, de suif, de laine. Les pêcheries d'esturgeons et de turbots occupent une partie de sa population qui est presque entièrement grecque. Les marins s'adonnent au petit cabotage du détroit et du littoral voisin sur de légères embarcations, gréées de 2 voiles latines. Yenikalé se trouve dans une importante situation stratégique, ce qui explique pourquoi les Russes l'ont fortifiée après l'avoir enlevée aux Turcs en 1771. C'est une des portes de la mer Noire qui, sur ce point, a deux clés de sûreté. La clé d'Yenikalé, d'un côté, la clé de Taman, de l'autre. Après une demi-heure de halte, le seigneur Kéraban donna à ses compagnons le signal du départ, et ils se dirigèrent vers le quai où les attendait le bac. Tout d'abord, les regards de Kéraban se portèrent à droite, à gauche, et une exclamation lui échappa. « Qu'avez-vous, mon oncle ? » demanda Ahmet, qui ne se sentait point à l'aise. « C'est une rivière, cela ? » dit Kéraban en montrant le détroit. « Une rivière, en effet, » répondit Ahmet, qui crut devoir laisser son oncle dans l'erreur. « Une rivière ? » s'écria Bruno. Un signe de son maître lui fit comprendre qu'il devait ne pas insister sur ce point. « Mais non, c'est un... » dit Nizib. Il ne put achever. Un violent coup de coude de son camarade Bruno lui coupa la parole au moment où il allait qualifier, comme elle le méritait, cette disposition hydrographique. Cependant, le seigneur Kéraban regardait toujours cette rivière qui lui barrait la route. « Elle est large !» dit-il. « En effet, assez large, par suite de quelques crues probablement, » répondit Ahmet. « Crues dues à la fonte des neiges, » ajouta Van Mitten pour appuyer son jeune ami. « La fonte des neiges, au mois de septembre, » dit Kéraban en se retournant vers le Hollandais. « Sans doute, la fonte des neiges... « Des vieilles neiges, les neiges du Caucase !» répondit Van Mitten, qui ne savait plus trop ce qu'il disait. « Mais je ne vois pas de pont qui permette de franchir cette rivière !» reprit Kéraban. « En effet, mon oncle, il n'y en a plus !» répondit Ahmet, en se faisant une longue vue de ses deux mains à demi fermées, comme pour mieux apercevoir le prétendu pont de la prétendue rivière. « Cependant, il devrait y avoir un pont, » dit Van Mitten. « Mon guide mentionne l'existence d'un pont. » « Ah, votre guide mentionne l'existence d'un pont !» répliqua Kéraban qui, fronçant les sourcils, regardait en face son ami Van Mitten. « Oui, ce fameux pont, » dit en balbutiant le Hollandais, « vous savez bien, le pont Euxin, Pontus Axenos des anciens. »«
Tellement ancien !»
répliqua Kéraban, dont les paroles sifflaient entre ses lèvres à demi serrées, « qu'il n'aura pu résister à la crue produite par la fonte des neiges, des vieilles neiges. »
« Du Caucase !» put ajouter Van Mitten,
mais il était à bout d'imagination. Ahmet se tenait un peu à l'écart. Il ne savait plus que répondre à son oncle, ne voulant pas provoquer une discussion qui aurait évidemment mal tourné.
« Eh bien, mon neveu, » dit Kéraban d'un ton sec, « comment ferons-nous pour passer cette rivière, puisqu'il n'y a pas ou puisqu'il n'y a plus de pont ?»« Oh, nous trouvons bien un gué, » dit négligemment Ahmet, « il y a si peu d'eau. » »«
À peine de quoi se mouiller les talons !» ajouta le Hollandais qui certainement aurait mieux fait de se taire.
« Eh bien, Van Mitten, » s'écria Kéraban, « retroussez votre pantalon, entrez dans cette rivière et nous vous suivons. »«
Mais je... »«
Allons, retroussez, retroussez !»
Le fidèle Bruno crut devoir intervenir pour tirer son maître de cette mauvaise passe.
« C'est inutile, seigneur Kéraban, » dit-il. « Nous passerons sans nous mouiller les pieds, il y a un bac. »«
Ah, il y a un bac !» répondit Kéraban.
Il est vraiment heureux qu'on ait songé à installer un bac sur cette rivière, pour remplacer le pont emporté, ce fameux pont Euxin. Pourquoi ne pas avoir dit plus tôt qu'il y avait un bac? Et où est-il, ce bac?
Le voici, mon oncle, répondit Ahmet en montrant le bac amarré au quai. Notre voiture est déjà dedans.
Vraiment? Notre voiture est déjà...
Oui, tout attelé.
Tout attelé. Et qui a donné l'ordre?
Personne, mon oncle, répondit Ahmet. Le maître de poste l'y a conduite lui-même, comme il fait toujours.
Depuis qu'il n'y a plus de pont, n'est-ce pas?
D'ailleurs, mon oncle, il n'y avait pas d'autre moyen de continuer notre voyage.
Il y en avait un autre, neveu Ahmet. Il y avait à revenir sur ses pas et à faire le tour de la mer d'Azov par le nord.
200 lieues de plus, mon oncle! Et mon mariage? Et la date du 30? Avez-vous donc oublié le 30?
Point, mon neveu. Et avant cette date, je saurai bien être de retour. Partons. »
Ahmet eut un instant d'émotion bien vive. Son oncle allait-il mettre à exécution ce projet insensé de revenir sur ses pas à travers la presqu'île? Allait-il, au contraire, prendre place dans le bac et traverser le détroit d'Yenikalé? le seigneur Kéraban s'était dirigé vers le bac. Van Mitten, Ahmet, Nizib et Bruno le suivaient, ne voulant donner aucun prétexte à la violente discussion qui menaçait d'éclater. Kéraban, pendant une longue minute, s'arrêta sur le quai à regarder autour de lui. Ses compagnons s'arrêtèrent. Kéraban entra dans le bac. Ses compagnons y entrèrent à sa suite. Kéraban monta dans la chaise de poste. Les autres y montèrent à sa suite. Puis le bac fut démarré, il déborda, et le courant le porta vers la côte opposée. Kéraban ne parlait pas, et chacun imitait son silence. Les eaux étaient heureusement fort calmes, et les bateliers n'eurent aucune peine à diriger leur bac, tantôt au moyen de longues gaffes, tantôt avec de longues pelles, suivant les exigences du fond. Cependant, il y eut un moment où l'on put craindre que quelque accident se produisît. En effet, un léger courant, détourné par la flèche sud de la baie de Taman, avait saisi obliquement le bac. Au lieu d'atterrir à cette pointe, il fut menacé d'être entraîné jusqu'au fond de la baie. C'eût été 5 lieues à franchir au lieu d'une, et le seigneur Kéraban, dont l'impatience se manifestait visiblement, allait peut-être donner l'ordre de revenir en arrière. Mais les bateliers, auxquels Ahmet, avant l'embarquement, avait dit quelques mots, le mot « rouble » plusieurs fois répété, manœuvrèrent si adroitement qu'ils se rendirent maîtres du bac. Aussi, une heure après avoir quitté le quai d'Yenikalé, voyageurs, chevaux et voitures accostaient-ils l'extrémité de cette flèche méridionale qui prend en russe le nom de Yuzhnaya Kosa. La chaise débarqua sans difficulté, et les mariniers reçurent un nombre respectable de roubles. Autrefois, la flèche formait 2 îles et une presqu'île, c'est-à-dire qu'elle était coupée en 2 endroits par un chenal, et il eût été impossible de la traverser en voiture. Mais ces coupures sont comblées maintenant. Aussi, l'attelage put-il enlever d'un trait les 4 verstes qui séparent la pointe de la bourgade de Taman. Une heure après, il faisait son entrée dans cette bourgade, et le seigneur Kéraban se contentait de dire, en regardant son neveu, « Décidément, les eaux de la mer d'Azov et les eaux de la mer Noire ne font pas trop mauvais ménage dans le détroit d'Yenikalé. » Et ce fut tout. Et plus jamais il ne fut question ni de la rivière du neveu Ahmet, ni du pont Euxin de l'ami Van Mitten. Fin de la section 14, chapitre 14 de la première partie, lu par Ezoa, en Belgique, en octobre 2009.